êtes bien à l'écoute de RFI, les 16h à Paris, 14h en temps universel.
Charlotte de Rouen.
300 prisonniers ukrainiens et 300 prisonniers russes échangés aujourd'hui. Au terme du week-end, un millier de détenus de chaque camp auront retrouvé leur patrie respective. Un échange qui intervient alors que la guerre, elle, se poursuit. Une attaque massive de drones russes a eu lieu encore ce matin sur Kiev. Sur RFI, le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Álvarez, appelle les Européens à créer un vrai embargo sur les armes à destination d'Israël pour empêcher les massacres à Gaza, vous l'entendrez. En Équateur, le Congrès investit ce samedi le président Daniel Noboa et ses électeurs attendent des résultats rapides, notamment en termes de lutte contre l'insécurité. Clap de fin ce soir au Festival de Cannes en attendant de connaître le palmarès de cette 78e édition. RFI, elle laisse les critiques faire leurs pronostics. Malgré les attaques russes sur Kiev ce matin, l'échange de prisonniers prévu aujourd'hui a bien eu lieu, Julien Chavanne. Après un premier échange, hier, la deuxième phase a bien été mise en œuvre aujourd'hui.
Près de 400 soldats et civils libérés hier vendredi. D'autres libérations vont suivre ce week-end. 1000 prisonniers ukrainiens contre 1000 prisonniers russes au total. Donald Trump s'en est félicité le premier. C'est le seul résultat concret pour l'instant des discussions qui se sont tenues en Turquie la semaine dernière entre des représentants des deux pays. Mais comme à chaque rapatriement d'enfants retenus en Russie ou chaque échange de prisonniers, ces négociations parallèles restent sans effet sur les combats. Aucun cessez-le-feu n'est en vue. Ce samedi matin, une attaque massive de drones et de missiles russes sur Kiev a fait au moins 15 blessés. Des explosions ont résonné toute la nuit dans la capitale. Des incendies, des chutes de débris ont frappé des immeubles dans plusieurs quartiers de la ville. Seules des sanctions supplémentaires ciblant des secteurs clés de l'économie russe forceront Moscou à cesser le feu, a prévenu le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur le réseau X.
Julien Chavanne, à Gaza, la défense civile annonce 15 morts dans des frappes israéliennes dans le territoire assiégé, dévasté par plus d'un an et demi de guerre. Depuis quelques jours, les Européens accentuent la pression sur Israël. Demain, les représentants de plusieurs pays européens et arabes se réunissent à Madrid, en Espagne. Pour le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Álvarez, il ne faut pas hésiter à créer un vrai embargo européen sur les armes, comme l'a déjà fait l'Espagne. Écoutez.
Un embargo d'armes, certainement, et c'est ça qui a fait l'Espagne. Je n'ai pas de leçons à donner à d'autres pays amis de l'Union européenne, mais certainement, je peux vous dire qu'est-ce qui a fait l'Espagne. Le gouvernement espagnol vient avant ce vote du Parlement. Dès le 7 octobre, nous avons arrêté l'exportation d'armes qui ont destination finale Israël et on n'est donc pas l'autorisation à des bateaux qui ont un cargaison d'armes avec destination finale de l'Israël dans nos ports, dans les ports espagnols. Parce que le Moyen-Orient, la dernière chose dont a besoin, c'est justement d'armes. Pour arrêter cette guerre, il faut arrêter la livraison d'armes. Ça me semble une évidence. On le fait depuis longtemps, l'Espagne. Et je pense que c'est en plus en accord avec la législation internationale qui interdit l'exportation d'armes envers des théâtres de guerre n'importe où dans le monde.
José Manuel Álvarez avec Marion Kazanov ce matin sur RFI. La Syrie salue la levée formelle des sanctions américaines. Hier, le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent a indiqué que son département mettait en œuvre des autorisations pour encourager de nouveaux investissements en Syrie. Ces sanctions étaient jusqu'ici le principal obstacle à la relance de l'économie syrienne. Le nouveau pouvoir à Damas s'emploie à trouver des fonds pour la reconstruction du pays dévasté par la guerre, par plus de 13 ans de guerre civile. Aux Émirats Arabes Unis, ce record de température enregistré en mai, 51,6 degrés Celsius. Le pays avait déjà connu le mois dernier une vague de chaleur inhabituelle pour la saison. En parallèle, en Europe, une sécheresse jamais vue frappe depuis plusieurs semaines le nord de la France et du vieux continent. Les sols sont secs et poussiéreux au Royaume-Uni, au Danemark ou encore en Belgique. Conséquence pour l'agriculture, les semis de printemps n'ont pas encore germé. En Équateur, après sa victoire lors de la récente élection présidentielle, Daniel Noboa commence officiellement son mandat ce samedi. Près de 70 délégations participent à Quito à son investiture par le Congrès. Un nouveau mandat qui débute sous de bons auspices, Éric Sanson.
Il y a un an, le président Noboa venait à peine de lancer un conflit interne armé contre des dizaines de groupes armés et mafias. Le pays était plongé dans des coupures d'électricité massives et l'opposition dominait l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, le mouvement officialiste Action démocratique nationale domine le Congrès. Les coupures d'électricité ont été évitées. De nombreux électeurs, comme la musicienne Paulina Iniguez, attendent maintenant des résultats rapides, notamment dans la lutte contre la délinquance.
Je ne sais pas si on pourra éliminer complètement la violence, mais il faut diminuer le pouvoir des mafias qui s'infiltrent dans la justice, les entreprises et le monde politique.
Et les chiffres de cette année ne sont pas bons. De janvier à mars, 2361 homicides ont eu lieu selon le ministère de l'Intérieur, 65% de plus que lors du premier trimestre 2024. Des chiffres que le président Noboa doit assumer, selon le politologue Gustavo Hisch.
Aujourd'hui, le président Noboa n'a plus d'excuses pour ne pas gouverner. Le gouvernement ne pourra pas accuser les gouvernements antérieurs, le boycott de l'Assemblée nationale, l'insécurité ou la fragmentation politique, car il a les mains libres.
Le président Noboa l'a d'ailleurs bien compris, lui qui attend l'approbation rapide de son projet de loi contre l'économie criminelle. Éric Sanson, Quito, RFI.
Au Venezuela, un proche de la chef de l'opposition a été arrêté hier à l'avant-veille d'élections boycottées justement par l'opposition. Juan Pablo Guanipa a été interpellé avec 70 autres personnes. Tous sont accusés de vouloir conspirer contre les élections législatives et régionales de demain dimanche. Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a exprimé sa plus profonde préoccupation après ces arrestations. Au Bangladesh, le gouvernement appelle à l'unité pour éviter le retour de l'autoritarisme. Une large unité est essentielle pour maintenir la stabilité nationale, organiser des élections libres et équitables pour la justice et les réformes. Voilà ce qu'a indiqué le gouvernement intérimaire dans un communiqué. Au bout d'une semaine de tensions entre partis politiques rivaux à Dhaka, le Bangladesh est en proie à des troubles politiques depuis que l'ex-première ministre Sheikh Hasina a été chassée du pouvoir par des manifestations menées par des étudiants en août l'an dernier. Ces rebondissements au dernier jour du festival de Cannes, une importante coupure d'électricité touche la ville, une panne qui affecte 160 000 foyers dans la région. Le palais des festivals, lui, n'est pas impacté, il a basculé sur un système d'alimentation indépendant et la cérémonie de clôture pourra se dérouler normalement. Et puis les autorités françaises viennent d'annoncer le rétablissement progressif de l'électricité après de graves actes de dégradation sur ce réseau. Côté compétition, 22 films sont en lice pour 7 titres. Les pronostics vont bon train. En attendant la cérémonie de clôture, Guillaume Thibault a demandé leur coup de cœur à quelques critiques internationaux.
C'est un simple accident. C'est le premier film de Panay depuis 20 ans. Il ne se met pas en scène. Et je trouve que d'ailleurs, le film organise un peu comme ça cette redistribution des places. Et là, il est obligé un peu de se réinventer. Et je trouve que l'ouverture rappelle que c'est aussi un vrai metteur en scène de fiction. Je le trouve digne d'intérêt. Et c'est un film qui pourrait en effet se retrouver au palmarès.
Si un film doit avoir la palme, pour vous, c'est lequel ?
Two Prosecutors, c'est pendant l'URSS de Staline et c'est un prosecuteur qui vient voir un prisonnier parce qu'il se fait maltraiter et lui il est un peu là pour défendre les prisonniers et leurs droits. Film ukrainien avec une très belle histoire et la cinématographie est incroyable.
Vous n'avez le droit qu'à un seul film.
Sentimental Value de Joachim Trier. Je trouvais que c'était un film qui avait tout. C'est un film sur une famille, cette capacité à communiquer en fait. C'est un film qui m'a vraiment ému parce qu'il est doux en fait.
Oh, c'est difficile. Disons que pour moi, mon préféré, c'est Syrah, qui est une autre critique de la société. C'est la fuite en avant d'une bande d'enfants éternels. C'est d'un humanisme et d'une profondeur rare. C'est une poésie magistrale. C'est ce qu'on aime au Festival de Cannes.
Retrouvez notre édition spéciale sur RFI en direct de Cannes à partir de 20h, heure de Paris, 18h en temps universel. En football, c'est une première finale qui se dessine ce soir pour le PSG avant celle de la Ligue des Champions contre l'Inter Milan samedi prochain. Les Parisiens affrontent Reims aujourd'hui en finale de la Coupe de France. Coup d'envoi 21h, heure de Paris, 19h en temps universel.